Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Académie et en particulier à nos émissions touchant l'histoire. C'est avec une citation de François Villon, « Deux étions et n'avions qu'un cœur » que Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française ouvre en forme de dédicace son dernier roman intitulé « Le Grand Cœur » édité chez Gallimard. Jacques Cœur, fils d'un pelletier de Bourges où il est né vers 1395-1400, est mort à Quillot en 1456. Son destin fut extraordinaire et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui-même qui s'est forgé ce destin. Grâce à la fortune réalisée dans le commerce avec le Levant, il devient le banquier de Charles VII qui le nomme argentier du roi en 1439. Il assainit la situation monétaire en contribuant au financement de la reconquête du royaume, car c'était les dernières années de la guerre de Cent Ans. Au fait de sa gloire, il supporte la chute, le dénuement, la torture. Une cabale l'accuse à tort d'avoir empoisonné Agnès Sorel, mais c'est pour malversation qu'il est emprisonné en 1451, condamné à la prison, à une énorme amende et à la confiscation de ses biens, de ses très nombreuses maisons. Il parvient en 1454 à s'évader et trouve refuge auprès du pape Nicolas V, à la tête d'une flotte qui lui est confiée par Calixte III, qui est le successeur de Nicolas V. Il part combattre les Turcs et meurt au cours de cette expédition, comme je viens de le dire, en 1456, vraisemblablement dans l'île de Quillot. Un bel amour, pur, absolu, pour Agnès Sorel, avait traversé sa vie. Deux étions et n'avions qu'un cœur. Jean-Christophe Ruffin, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir au micro de Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs, même s'ils vous connaissent bien, vous êtes médecin, voyageur et écrivain, auteur de nombreux romans, nouvelles et essais. Et je pense entre autres à L'Abyssin, Globalia, Rouge Brésil, pour ne parler que d'eux. Votre passion pour l'histoire vous a incité, monsieur, à suivre des destins exceptionnels, des aventuriers comme vous. On y pense un peu. Mais la clé de voûte du grand cœur est encore plus intime, plus tendre, plus nostalgique que les autres livres d'histoire.
Oui, parce que Jacques Cœur, c'est d'abord quelqu'un qui s'exprime dans le livre à la première personne. Donc, il y a la tonalité de confession qui est toujours un petit peu nostalgique. C'est un homme qui a passé la cinquantaine, qui se penche sur sa vie, sur son passé et qui essaie de démêler au fond ce destin extraordinaire qui a été le sien. Alors ça donne déjà cette tonalité. Et puis, l'autre raison, c'est qu'il est très proche de moi. C'est-à-dire que nous avons la même origine. Je suis né à Bourges, comme lui. Pas loin de sa maison natale, d'ailleurs, et tout près, surtout, de son palais. Et pour moi, c'est une figure qui a accompagné toute mon enfance. Donc, si vous voulez, voilà, je me sens très en familiarité avec lui, et peut-être plus qu'avec d'autres héros que j'avais choisis pour leurs aventures. Lui, il a ses aventures, plus cette proximité.
Oui, vous avez écrit dans la postface à un moment donné, « À un moment, j'ai eu le projet de faire revenir sa dépouille de l'île de Kyo, où il est mort. » Et ça, c'est quand même assez passionnel.
Oui, c'était un projet avec Jean-François Degnaud, on avait parlé de ça, mais c'est un projet qui a été repris ensuite par un médecin, un jeune médecin, Philippe Charlier, qui est un médecin légiste, qui est allé à Kyo à deux reprises avec Michel Degresse dans le but de trouver cette dépouille, parce que Philippe Charlier est un spécialiste de la médecine légale et des dépouilles royales ou historiques, disons, d'une façon générale. Et c'est lui qui a fait l'analyse, par exemple, des cheveux d'Agnès Sorel, par exemple. Voilà. Et donc, cette idée... Bon, elle était un petit peu romantique de ma part et on avait envisagé ça avec Jean-François Degnaud. Comme ça, c'était un peu une sorte de défi qu'on se lançait, puis on ne l'a pas fait, bien entendu. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ce personnage nous était proche. Et bon, vous savez que Jean-François Degnaud était l'élu de cette région, hein, de Bourges, et moi j'en étais l'enfant, donc voilà, c'était un projet commun.
Les sources sont nombreuses pour tout ce qui tourne autour des activités, des biens, le procès. Mais sur l'homme, sur l'âme de Jacques Cœur, non.
Oui, c'est la meilleure situation pour un romancier. C'est-à-dire qu'on a à la fois un cadre historique très précis, Mais ce cadre a des trous, il y a des choses qu'on ignore dedans, beaucoup de choses qu'on ignore. Vous l'avez dit en commençant, la date de naissance par exemple de Jacques Coeur n'est pas connue précisément. Il n'y a pas de portrait de lui, en tout cas pas d'époque. Il y a des portraits postérieurs qui peut-être copient des portraits d'époque, mais on ne sait pas au fond à quoi il ressemblait. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Alors je me suis attaché à ce que tous les repères historiques soient tout à fait authentiques, parce que je pense que c'est important, c'est ce que disait Marguerite Yourcenar, par exemple, elle disait... Un roman historique qui n'est pas rigoureux, c'est un bal costumé. Bon, moi, je voulais éviter, comme elle d'ailleurs, le bal costumé. Je voulais que le lecteur sache qu'il peut être en confiance dans le livre. On ne lui raconte pas des choses farfelues. Jacques Coeur ne sort pas un téléphone portable de sa poche. Donc, on est dans quelque chose de fiable. Mais, évidemment, comme ces éléments connus ne sont pas complets, eh bien, le romancier est appelé à la rescousse pour rendre tout ça vivant, c'est-à-dire pour lui donner de la chair.
Vous lui avez donné de la chair parce que vous avez parlé de son enfance, de sa formation. Alors, je ne parle pas de la formation scolaire, parce qu'il a été longtemps à l'école, ça c'est une chose. Mais son expérience, ses émotions, les épisodes qui ont été là pour montrer et qu'il se montre à lui-même, qu'il se découvre, oui. Qui il était. Alors, les expériences, il y a l'épisode du siège de Bourges qui montre que c'était un chef. Il a l'esprit calme, précis.
Oui, il le découvre lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas les capacités physiques pour être un chef parce qu'il a une espèce de
tare
physique.
Et ça, c'est historique.
Non, je voulais qu'il ait quelque chose en lui. Je pensais que c'était comme ça que les choses s'étaient passées, mais c'est une hypothèse, bien sûr. Vous savez, à un moment donné, un enfant choisit ses armes, si je puis dire, avec les autres. Alors, ceux qui sont costauds, ils peuvent se battre, et puis il y en a qui sont asthmatiques ou qui ont un problème de santé, qui fait qu'ils ne peuvent pas se battre avec les armes des autres. Et en général, ces enfants-là, ils trouvent d'autres moyens d'agir et, au fond, de prendre un ascendant sur leurs amis. Et c'est ce qui va se passer pendant cet épisode. Tout à coup, il va se découvrir un chef. Vous savez, d'une façon générale, moi, quand je raconte une histoire comme ça, j'oublie tout à fait qu'il s'agit d'un roman historique. Pour moi, ça n'existe pas. C'est d'abord un roman, c'est-à-dire c'est d'abord quelque chose qui est vécu par les yeux à travers un personnage. Et donc, il ne faut pas dire, Jacques Coeur était un chef, ça ne veut rien dire. J'essaie de montrer, avec des expériences, des perceptions tout simplement qu'il a eues, comment lui-même a découvert tout à coup pourquoi il était doué et pourquoi il ne l'était pas. Voilà. Alors il y a des choses qui tout à coup vont apparaître à ses yeux et donc aux nôtres.
Et puis l'épisode du léopard qui sort de son sac est très important parce que là aussi, il a une émotion très forte qu'il mènera jusqu'au bout de sa vie.
Oui, alors son père était pelletier, c'est-à-dire c'était un fourreur, un pelletier qui donc était un artisan qui travaillait les peaux. Et toutes ces peaux étaient grises, elles étaient rousses éventuellement, grises, enfin dans les couleurs un peu d'automne, dans ces couleurs de la Sologne, du Berry. Et puis tout à coup un jour, en effet, il voit apparaître un autre animal. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait des montreurs forains, comme ça, souvent des gitans, alors, qui montraient des animaux sauvages. Alors, les plus riches et les plus organisés montraient des ours. Enfin, un ours n'était pas à la portée de tout le monde. Il y avait un animal qu'on montrait assez volontiers, c'était le léopard. Parce que le léopard, c'est un petit fauve qu'on peut contrôler assez bien. Et donc, j'imaginais qu'à ce moment de sa vie, Jacques Coeur a été mis en présence de cette fourrure qui, parmi les autres, détonnait complètement par sa couleur et qu'elle lui laissait entrevoir qu'un autre monde existait ailleurs, avec d'autres couleurs. Ce qui était très nouveau pour lui, là encore, parce qu'au fond, il était né dans cette guerre de 100 ans, très obscure, très dure, très... Il était né en même temps que le roi Charles VI devenait fou. Donc il avait l'impression de vivre dans un monde devenu lui-même fou. Et tout à coup, ce monde, laissait apercevoir qui n'était pas le seul et qu'il pouvait y en avoir un autre ailleurs. Voilà, ça c'est très important dans l'éducation d'un enfant.
Il y a aussi son expérience politique. Et ça, il l'a fait dans l'antichambre du duc de Berry avec son père parce que la morgue des seigneurs était insupportable, acceptée par son père mais ne sera pas acceptée par lui. Et puis un certain Eustache qui est un cabochien. Donc tout ça, ça se construit pour en faire un personnage insoumis, mais pas dans la brutalité.
Non, ça fait partie de ces jalons qui mènent peut-être à distance, beaucoup plus tard évidemment, à la Révolution française, c'est-à-dire de cette lente transformation du monde qui s'opère à ce moment, dans cette époque, qui commence à cette époque et qui s'accomplira beaucoup plus tard, et qui passe d'un monde basé sur la possession de la terre, sur, au fond, ce monde féodal, en quelque sorte, qui est encore très présent pendant la guerre de 100 ans, qui a conduit d'ailleurs à des désastres. Et puis le monde qu'on pourrait appeler le monde du travail et le monde de l'argent, puisque les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'il appartient à ces artisans, à ces monnayeurs, à ces hommes d'argent, qui tout à coup vont supplanter la terre. avec une autre valeur qui est celle de l'échange et de l'argent. Et au début, ils sont méprisés. Ce sont des gens qui sont vraiment considérés comme voilà, des fournisseurs qu'on maltraite. Et puis petit à petit, eh bien, ils vont atteindre une forme de puissance nouvelle et Jacques Coeur est l'un d'entre eux. Alors cette puissance, lui, il l'atteindra avec le roi. Plus tard, avec la Révolution, ses successeurs atteindront cette puissance contre les rois. Mais c'est un peu le même mécanisme, d'une certaine manière.
Oui, et vous évoquez bien la chevalerie qui révolue. Mmh. Vous avez même parfois des phrases un peu dures pour certains chevaliers, comme Jacques de Lalain, le chevalier bourguignon. Et on lui doit quand même Bertrandon de la Brocquière, on lui doit avoir un témoignage de,
voilà,
de,
oui,
de Levant et de Jacques Coeur.
Exactement.
Mais oui, donc
que j'ai pu consulter d'ailleurs grâce
à l'institut.
À l'amabilité de Madame Pastoureau et de la bibliothèque de l'Institut. Oui.
Oui. Donc on est au tournant d'un monde. C'est la fin, vous avez dit effectivement les désastres à Azincourt, la chevalerie française est partie dans le mur. Mais l'état de la France est absolument triste, sauf qu'à Bourges, c'est une ville grise, soit, mais il se trouve que c'est la capitale du roi de France du moment. Et ça permet à Jacques Coeur de démarrer.
Oui, alors le démarrage de sa vie n'est pas très brillant parce qu'au fond, jusqu'à 30 ans, il piétine un peu. Il fait un mariage qui est un beau mariage, mais enfin qui reste dans un mariage bourgeois avec sa voisine, qui est la fille d'un prévôt des marchands.
Qui est monnayeur, lui.
Et c'est la petite fille du monnayeur de Bourges. Bon, et par sa femme, il va connaître ce monde de l'argent, qui n'est déjà plus tout à fait le monde des artisans. C'est déjà un petit peu plus vaste, un peu plus ouvert. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il fasse au départ une très belle carrière. Et jusqu'à 30 ans, ce qui à l'époque est tard, hein, 30 ans pour un homme du Moyen-Âge, c'est déjà long. Eh bien, jusqu'à 30 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est à la faveur, si je puis dire, ou en tout cas à cause d'une bêtise, au fond, qu'il fait.
Oui, avec Ravan.
Voilà, avec Ravan, d'une imprudence qu'il se retrouve en prison. Pas très grave, au fond il va être libéré assez vite, mais c'est une tâche quand même sur son honneur et il se sent contraint de se cacher, de fuir, prendre du large parce qu'il est de famille honorable quand même et tout d'un coup le fait d'avoir été comme ça jeté en prison, il sera en prison pendant toute la période d'ailleurs où Jeanne d'Arc traversera l'histoire de France, il ne la connaîtra pas à cause de ça. Et là, eh bien, le hasard veut qu'en effet, en sortant, il va partir, il va quitter cette ville, il va descendre le long du massif central le long du Rhône jusqu'à Montpellier. Et c'est au fond par ce hasard que tout à coup sa vie va changer complètement puisqu'il va découvrir l'Orient alors qu'il n'était pas préparé pour ça.
Important, c'est qu'on voit à quel point il sait ressentir les hommes. Et il prend pour s'associer, parce que ça va être incroyablement important, des hommes qui ont des fêlures. Car il les estime non seulement plus intéressants, mais peut-être plus fidèles s'ils ont engagé leurs paroles.
Oui, ça va même jusqu'à engager des valets qui sont des gens d'assez mauvaise réputation, qui ont même, pour certains, été carrément des voyous. Et il pense, et je pense aussi d'ailleurs, que ces mondes, je veux dire, des mauvais garçons, si vous voulez, des brigands, des gens, ce sont des mondes dans lesquels la fidélité existe, très forte, la loyauté aussi. Et quand ces gens sont pour vous, ils sont pour vous jusqu'à la mort. Alors que s'ils sont vos ennemis, bien entendu, ils ne feront pas de pitié non plus. Mais dans l'autre sens, s'ils vous sont fidèles, ils iront jusqu'au bout pour vous soutenir. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, puisque le plus mauvais garçon de ses valets va lui sauver la vie un jour.
Et c'est aussi ces gens-là qui vont lui permettre, mais à la fin, de s'échapper, soutenu par le pape, etc.
Ah oui, ils iront jusqu'au bout.
Mais ils iront jusqu'au bout.
Et ils lui seront fidèles jusqu'au bout, même quand il sera en prison et tout le temps.
Oui. Alors, vous avez évoqué Charles VII. Et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée parce que c'est une scène qui vous permet de montrer la différence entre Charles VII qui a en fait des bruits intérieurs, devant, il y a les bruits des molosses, les chiens auxquels il participe, il ne déteste pas, car ça correspond à lui.
Ah oui, c'est un être violent, en fait.
Oui, Charles VII. Ouais. Alors que Jacques Coeur, calme, réfléchi, flegmatique. Mmh. Et en fait, on se rend bien compte qu'effectivement, Jacques Coeur ne pouvait pas pouvoir finir avec Charles VII. Le jour où Charles VII n'aurait plus besoin de lui, qu'Agnès ne serait plus là, Jacques Coeur était perdu.
Oui, parce que quand il rentre d'Orient et qu'il décide de créer cette compagnie de commerce, il comprend qu'il ne pourra pas simplement se contenter de faire un petit négoce comme ça, mais qu'il veut vraiment changer ce monde, apporter à la France cette civilisation qu'il a découverte en Orient, et que pour ça, il a besoin de la force que lui donnera une alliance avec le roi. Donc il est obligé de se rapprocher de Charles VII. Il va créer avec lui une sorte de, d'équipe, on pourrait dire, mais une équipe très inégale, qui est fondée sur un intérêt mutuel, ponctuel. Jacques Coeur va financer la reconquête du royaume par ce roi qui, au départ, était pratiquement roi de Croupion, roi de Bourges, on disait, n'avait plus beaucoup de terres. Et puis, il va financer cette reconquête, il va faire des affaires avec lui, mélangeant tout le temps les fonds publics et les fonds privés, les fonds royaux et sa fortune personnelle. Tout ça va devenir un petit peu opaque. Mais cette aventure va être extrêmement riche, va couronner de succès. Charles VII va devenir un grand roi, lui va devenir très riche, simplement. Il y a, dès le départ, dès les conditions même de leur association et de leur rencontre, on pourrait même dire, quelque chose qui montre que ça va se terminer mal. Parce que Charles VII n'est pas un homme loyal, c'est un homme jaloux. Et même si on fait tout pour lui, ce qui sera le cas de Jacques Coeur, qui vraiment, il lui doit tout, comme il devait tout à Jeanne d'Arc d'ailleurs.
Oui.
Et à un moment donné, eh bien, il se retournera contre lui par jalousie. Parce que ça n'est pas un homme fidèle, ça n'est pas un homme loyal. Et Jacques Coeur le sait dès le départ. Mais il n'a pas l'autre choix que de s'associer quand même avec lui.
Alors l'argenterie, c'est l'instrument de la gloire royale, mais ce n'est pas dans le royaume une institution comme les autres. Ça correspond à quoi ?
C'est un intendant, en fait, on dirait aujourd'hui. C'est une fonction plus subalterne qu'on veut bien le croire, puisqu'en général, on dit le grand argentier et on laisse entendre qu'il aurait été ministre des Finances. C'est faux. En fait, il y avait des ministres des Finances, il y avait des gens qui étaient vraiment chargés des finances royales. Lui, son rôle, c'était, au fond, le fournisseur de la cour. Voilà, c'est-à-dire que c'était lui. Et il avait d'un côté son entreprise, c'est-à-dire il avait d'un côté ce réseau de commerce et de production.
Et de facteurs, vous dites.
Voilà, et des facteurs. Alors, les facteurs, c'était les gens. En fait, il y avait des formes d'association avec ses employés ou ses associés très souples, c'est-à-dire que les facteurs, c'était des gens qui le représentaient localement, comme ça, et sur lesquels il se reposait. Donc, il avait jusqu'à 300 facteurs dans tout le monde occidental de l'époque. Bon, il faisait venir ses marchandises. Pour une part, il les fabriquait. Par exemple, la soie, il était associé avec des Florentins pour le fabriquer. Il faisait venir tout ça, les poteries, les épices, les armes de Gênes, etc. Bon, tout, les tissus, les soieries et tout. Il les faisait venir dans cette argenterie. Et cette argenterie était à disposition, mettait ses biens à disposition de ceux qui voulaient les acheter. Seulement, comme ceux qui voulaient les acheter, qui étaient en général des nobles, n'avaient pas beaucoup d'argent, eh bien, en plus, il leur en prêtait. Donc, il était à la fois producteur, transporteur, le grossiste, le détaillant et le banquier. Voilà, c'est le capitalisme très, très primitif, finalement, ce qui, évidemment, lui donnait un rôle considérable.
Oui, mais fragile.
Mais très fragile, parce qu'il se faisait beaucoup d'ennemis, parce qu'en prêtant, d'une certaine façon, et c'était encouragé par le roi, il faisait ce que Louis XIV fera par la suite, c'est-à-dire qu'il s'attachait, finalement, à l'obéissance, ou en tout cas, il faisait de tous ses nobles des gens redevables, donc qui venaient lui manger dans la main, en quelque sorte. Mais au bout d'un moment, quand vous avez trop de débiteurs, ils peuvent être tentés aussi de se liguer et de vous supprimer. Voilà, ce qui est une façon assez simple de faire disparaître leurs dettes. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ses ennemis, à un moment donné, seront tellement nombreux et tellement puissants qu'ils auront finalement raison de sa carrière.
Alors, ce qui est aussi étonnant dans ce personnage, c'est qu'il développe beaucoup de potentialités en France ou ailleurs. Les mines d'argent du Lyonnais.
Parce qu'il n'y a pas de numéraire. L'Europe en général, et la France en particulier, manque terriblement de numéraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, au sens du métal.
Du métal, oui.
Et donc, les transactions sont freinées à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas payer, si vous voulez. Alors, on est obligé de faire du troc, on est obligé de faire des lettres de change. Enfin, il y a tout un tas de systèmes pour se passer d'argent, finalement. Mais bon, les choses seraient plus faciles s'il y en avait. Et donc, Jacques Coeur va acheter ses mines et il fera venir des ouvriers d'Allemagne, parce que c'est là que sont les meilleurs spécialistes. Ces mines existent toujours, d'ailleurs, pour une part. Et il va essayer de produire de l'argent. Il n'y arrivera pas, d'ailleurs. Ce sera pas.
C'est pas rentable.
On n'aura pas le temps, c'est pas très rentable. Et l'analyse qui en a été faite, notamment par Michel Mollat-Dujourdain, qui est un ancien membre de l'Institut, aujourd'hui disparu, qui a laissé un grand livre très important sur Jacques Coeur du point de vue économique. Il est absolument formel, les mines de Jacques Coeur n'ont jamais été rentables.
Il a connu l'amitié du pape ou des papes, hein, puisqu'on en a parlé de deux, du sultan. Et en fait, c'était un personnage qui avait des autorisations assez étonnantes pour commercer par voie de mer. Mmh. Et ça, ça va peut-être d'ailleurs lui poser des questions après, parce que le pape lui a donné l'indulte. Mmh. Mais non, ça ne sera pas supporté, accepté et reconnu, ça.
Bah, pas pour tous les produits, notamment pas pour les armes. Si vous voulez, globalement, le commerce avec ce qu'on appelait les Mahométans, qui étaient à la fois des Turcs et des Arabes, puisqu'il y avait quand même deux puissances dans le monde musulman de l'époque, il y avait les Turcs qui arrivaient plus récemment, et puis les Arabes en Égypte et en Terre Sainte. Donc, le commerce avec eux était interdit. Sauf, effectivement, un certain nombre d'exemptions qui étaient données à des villes, en particulier Montpellier, dont Jacques Coeur a profité au départ. Et puis, oralement, le pape lui aurait donné, en effet, l'autorisation pour combattre les Turcs, donc dans des combats entre musulmans, si je puis dire, d'envoyer des armes au sultan d'Égypte. Et simplement, il n'avait pas écrit. Et quand, effectivement, Jacques Coeur sera jugé, on lui reprochera cette vente. On appellerait ça aujourd'hui un embargo sur les armes, d'une certaine façon, qu'il a en quelque sorte franchi, transgressé, en vendant ses armes. Mais en réalité, il en avait très probablement, en tout cas, il l'a dit, toute raison de le croire, on lui avait dit qu'il pouvait le faire, mais personne, malheureusement, ne lui avait écrit.
Alors, avant qu'on parle des personnages féminins qui sont très graves, qui sont très dignes à vous écouter, en fait, Jacques Coeur, qui n'aimait pas la chevalerie, qui trouvait que la croisade était devenue obsolète, il est quand même parti en croisade à la fin, parce que c'était sa seule solution pour s'échapper.
Oui, mais enfin, c'était une croisade en peau de lapin, un petit peu. Ces dernières croisades qui n'avaient plus grand-chose de la croisade des origines, c'était pas Saint-Louis, hein, c'était certaines tentatives comme ça qui ont été faites par des papes en mal d'autorité pour essayer de montrer qu'ils étaient fermes face aux Turcs. Mais en réalité, ces croisades ne rimaient pas à grand-chose, elles n'avaient pas beaucoup de moyens. Et Jacques Coeur, effectivement, pour faire plaisir au pape, il n'y a pas le choix. Il était abrité par le pape. Et en quelque sorte, il avait besoin de lui pour survivre. Il a dû céder à ce caprice, mais dès qu'il a pu, il s'est échappé. Et c'est comme ça qu'il est mort dans cette île de Chios, en Grèce.
Et dans les bras d'une femme, enfin non.
C'est vrai que la légende est beaucoup plus... Bon, on ne sait pas de quoi il est mort et on ne sait pas comment il a vécu à Chios, en réalité. Mais il y a une légende qui est assez tenace, parce que, au gré comme ça, des rencontres que je fais pour parler de ce livre, beaucoup de gens viennent m'en parler spontanément. Il y a une légende qui veut, notamment dans le Berry, qu'il aurait en effet rencontré une femme là-bas, qu'il aurait refait sa vie, comme on dit, et qu'il serait parti ailleurs. Donc, il ne serait pas mort à Chios, qu'il aurait eu une deuxième vie, enfin même, on pourrait dire une troisième vie, avec cette femme. Alors, moi, je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais je me suis quand même inspiré d'une partie de cette légende en pensant que sur place, il avait pu en effet être épaulé par cette femme qu'il rencontre dans cette dernière partie de son existence.
Oui, donc les femmes, les personnages féminins que vous mettez bien en scène, que ce soit la femme Massé, qui est une femme de valeur, ou Agnès Sorel, la dame de beauté, et qui est une femme sincère, mélancolique, et qui, elle aussi, souffre de Charles VII, car quand on est une favorite, on est vraiment prête à être remplacée.
Oui.
Et cette connivence entre Agnès Sorel et Jacques Coeur qui est réelle, bon, vous avez été jusqu'au bout d'une histoire superbe.
En fait, oui, si vous voulez, il y a des indices qui permettent de penser qu'ils étaient très proches et qu'en tout cas, ils étaient dans la même position par rapport à ce roi dangereux. Hein. C'était tous les deux des gens qui pouvaient à tout moment se retrouver condamnés à cause de la proximité de ce roi. C'est-à-dire que ce côté, si vous voulez, une espèce de danger permanent qui planait au-dessus d'eux et qui probablement les rapprochait. Agnès, il faut dire une chose, c'est que c'est un destin extraordinaire. C'est une femme qui meurt à 28 ans, qui a un parcours extraordinairement brillant. D'une certaine manière, c'est une femme instruite, d'une très bonne famille, qui a été en Italie avec Isabelle de Lorraine, la femme de René d'Anjou, qui a une expérience de l'étranger, donc c'est pas évident. Et puis, elle est mise tout à coup, à un peu plus de 20 ans, dans le lit du roi, par Charles d'Anjou, pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la famille d'Anjou essaie d'entourer le roi, de le tenir, de le ligoter, et avoir une maîtresse à ses ordres, c'est très bien. Donc, elle se retrouve comme ça, évidemment, elle ne peut pas refuser, et elle se retrouve dans cette position. Elle est très intelligente, donc elle se dit, moi je ne vais pas faire comme les autres maîtresses qui se font mettre à la porte tout de suite, je vais rester. C'est-à-dire que je ne veux pas être une maîtresse comme ça qu'on prend et qu'on jette. Et elle va s'installer. Et c'est elle qui va retourner finalement les choses à son profit. Et elle va installer autour du roi un réseau d'amis, d'amis qu'elle entretient, qu'elle aime, des gens en qui elle a confiance et qui vont la protéger. Et qu'elle va protéger en retour. Et parmi eux, il y a Jacques Coeur. Voilà. Et au fond, le roi, à ce moment-là, va se débarrasser de tout le monde, y compris des Anjou, d'ailleurs. Et ça sera ce qu'on appelle la dernière coterie. C'est tous ces jeunes, enfin oui, jeunes ou moins jeunes, en tout cas, pour une part, qui ne sont pas des nobles, ou en tout cas des petits nobles, qui sont des gens recrutés sur leurs valeurs, sur leurs compétences. Pour Jacques Coeur, c'est les compétences financières. Pour les frères Bureau, c'est leurs compétences militaires, etc. Et Agnès Sorel est la grande organisatrice de cette dernière coterie. Voilà. Et elle tient le roi comme ça. Et puis elle meurt. Elle meurt dans des circonstances qu'on s'explique assez mal. Bon, empoisonnement, intoxication volontaire, enfin, ou intoxication accidentelle, on ne sait pas. En tout cas, elle a été intoxiquée au mercure, ça c'est certain. Et à partir du moment où elle meurt, eh bien, ce système qu'elle a construit autour d'elle s'effondre. Et à ce moment-là, tous ces hommes qui étaient ses protégés ben, vont connaître la disgrâce. Et c'est le cas de Jacques Coeur. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on sait. Mais si vous voulez, ils appellent au secours le romancier, parce qu'évidemment, comme on n'en sait pas plus, ben, le reste, il faut l'imaginer, bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait.
Avec beaucoup de poésie et d'élégance. Pour conclure, je voulais simplement rappeler que dans une préface que vous aviez écrite pour un livre au sujet de Nicolas de Villegagnon, j'avais vu en clin d'œil que vous disiez que les romanciers historiens sont des cannibales. Donc vous devez être toujours très heureux parce qu'on peut tout manger.
Les romanciers sont des cannibales en général, qu'il s'agisse du présent ou du passé. Parce que ceux qui écrivent sur le présent et qui racontent ce qui se passe autour d'eux sont aussi, d'une certaine manière, des cannibales. Moi, je ne peux pas faire ça. Peut-être parce qu'à l'origine, je suis médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, j'ai juré de ne pas révéler ce que j'ai vu en entrant dans les maisons. Donc, il m'est très difficile de raconter des choses que j'ai vues, que j'ai faites directement. En revanche, avec la distance du temps, là, je suis libéré de cet engagement et je peux, je veux dire, me sentir très libre et laisser, en effet, tout à fait carrière à l'imagination. Bien sûr, on est cannibale, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence très profonde de ça, et d'ailleurs pas très confortable, c'est que lorsqu'on a conscience d'être cannibale, on a besoin de la vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à manger. Quand je ne vis pas, si je me consacrais, ce qui ne m'est pas arrivé jusqu'à présent, uniquement à l'écriture, au bout d'un moment, je m'étiolerai parce que je n'aurai plus rien à dire, parce que je n'aurai plus rien à manger, donc pour reprendre votre comparaison. Et effectivement, j'ai besoin à la fois de la vie, mais de la mienne, c'est-à-dire l'expérience de la vie, les portraits, les émotions, les paysages, etc., qui me sont donnés par la vie. Et puis tout ça, je le digère alors, dans une intrigue, qu'elle soit très lointaine ou contemporaine, peu importe, pour en produire des fictions. Voilà. Et ça, ça ne rend pas les choses très simples, parce que je préférerais faire comme mon prédécesseur au fauteuil 28, Henri Troyat, qui vivait en ne faisant que de se consacrer à l'écriture. Moi, ça n'est pas possible. Si je fais ça, ben, je sais que je pourrais faire un livre, peut-être deux, mais pas plus. Donc j'ai besoin de la vie, précisément pour pouvoir nourrir cette imagination cannibale.
Oui, c'est votre sensibilité qui permet de faire de l'histoire et d'alimenter la sensibilité et l'âme des hommes.
Mais c'est de l'histoire, je le redis, parce que ça me
paraît
très important.
Oui, mais c'est une histoire très vraie.
Voilà, c'est une histoire qui est vécue. Il n'est pas nécessaire de connaître quoi que ce soit au Moyen-Âge pour lire ce livre. C'est une histoire qui est vécue à travers des personnages. Et la priorité est toujours donnée romanesque, c'est-à-dire aux personnages, à leur sensibilité. Et l'histoire, elle vient après, c'est-à-dire elle vient naturellement, elle vient comme chacun d'entre nous a connu son époque, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un cours avant d'arriver sur Terre qui nous explique, voilà, vous allez tomber dans telle et telle configuration historique. On le découvre sur place. Et en suivant un héros comme celui-là, eh bien, il construit par sa perception toute son époque. Mais il la construit avec ses yeux. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, l'assassinat du duc d'Orléans. Il a 7 ans, à peu près.
Oui, bon. Oui 1407, ben, rue
voilà,
Barbette.
1407, voilà, exactement.
À Paris.
Et donc, cet événement, il n'est pas nécessaire d'en décrire toute la mécanique politique, etc., puisque c'est un enfant de 7 ans qui l'apprend. Et lui, tout ce qu'il comprend, c'est que ça va mal tourner, que la guerre va reprendre, que ça va être beaucoup plus dur, etc. Voilà, donc cet événement, il ne faut pas faire un cours dessus. Il faut voir comment le personnage l'a senti.
Oui, voilà. Une sensation.
Et tout est comme ça. Moi, quand j'étais enfant, c'était la guerre d'Algérie. Voilà, j'entendais tel ou tel combat dans telle région. Voilà, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, si vous voulez, il faut vraiment donner la priorité aux personnages, les faire parler, les faire voir. Et l'époque se construit toute seule à ce moment-là. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci.